France Musique. Les grands entretiens, Anne Montaron, France Musique.
Je m'appelle Bernard Cavana, je suis né à Nogent-sur-Marne le 6 novembre 1951 et j'essaie de m'inscrire dans cette grande aventure de la musique écrite.
J'ai l'impression que le regard compte énormément pour vous, finalement. On parle beaucoup de musique, on parle beaucoup de son, là, Bernard Cavana. Mais finalement, vous avez plusieurs fois tenu une caméra dans votre main. Vous avez, je crois, filmé votre mère.
Oui, je fais deux films sur ma mère. Ouais. Mais oui, j'ai toujours aimé l'image. Mais je pense que c'est une passion que je tiens de mon père, qui, lui, très tôt, s'était offert. Pourtant, il ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais il s'était offert une petite caméra 8 mm. Il faisait partie aussi d'un ciné-club, parce que c'était avant la vidéo, et il aimait beaucoup l'image. Il y a eu un incendie dans la maison de ma mère, et tous les films sont détruits. Cette envie de filmer et de monter aussi, le montage, c'est quelque chose de formidable, qu'à voir aussi avec la musique, parce qu'on peut monter très long et ça paraisse plus court, et inversement, être trop court et ça paraît plus long. Il y a des jeux comme ça, avec l'image, le son. Mais ce sont des films très modestes, évidemment. Mais il y en a un que j'ai très réalisé avec Laurence Piedja.
Sur Aurel Stroé, justement.
C'est sur Aurel Stroé. Ouais. C'était l'année en 2000 ou 99 où il a eu une première attaque cardiaque. Et je me dis, il faut prendre des images de lui. Et j'ai acheté une caméra à cette époque-là. Une petite Sony amateur. Et je suis allé le voir en Allemagne dans les répétitions à Poitiers avec Ars Nova et Naon. En Roumanie aussi, et j'ai pris des images sans me soucier de la lumière, balance des blancs, etc., du son. Et j'ai pris le maximum d'images. Et puis un jour, je les ai montrées à Laurence Piedjak, qui est passionnée de musique contemporaine, et on s'est rencontrés en parlant avec elle. Je lui ai montré ces images, elle dit « mais on pourrait en faire un film ». Et on a monté le film, et je l'ai présenté à Serge Laloux, des films d'ici, et je pensais qu'il allait me l'envoyer balader, et il était tombé amoureux du film. Mais cela dit, le personnage Aurel Stroé est tellement fort, que c'est comme si j'avais pris Charlie Mingus ou Thelonious Monk, puis on l'a traduit en allemand, en roumain, et je suis très très content. Pour moi, c'est ma meilleure pièce, c'est ce film.
Vous envisagez vous réemparer d'une caméra?
Je pense qu'on pourrait faire un film sur chaque personne. Chaque personne mériterait un long métrage. Et oui, ça me plairait bien.
Il y a l'image, il y a l'image animée, il y a ces portraits, ce portrait d'Aurel Stroé. Et puis il y a la peinture, vous évoquiez cet ami peintre avec lequel vous vous déplaciez chez Henri Dutilleux.
Oui.
Et très souvent, d'abord ce goût pour les couleurs inédites dans l'instrumentation, très souvent vous empruntez à la peinture des images.
Oui, la façon dont les éléments se posent dans un espace fermé qu'est la toile, ou des objets hétéroclites qui se rencontreraient. La notion d'unité aussi, même s'il y a des objets très très divers. En fait, la composition, les premières cours entre guillemets de composition, c'est à travers les cours de mes amis peintres.
Quels sont les univers de peintres qui vous touchent?
Il y en a eu beaucoup. Mais des peintres moins connus comme Max Beckmann. J'aime beaucoup cette période. Comme en musique, ça part dans différentes directions. Et des fois, il nous précède. Même la plupart du temps, il précède la création musicale. Donc j'aime bien tous ces, ses aventures, mais Kiriko aussi. C'est quelqu'un qui se met en retrait par rapport au grand mouvement d'avant-garde, dans lequel il n'est pas admis. Jusqu'à Bacon, j'ai trouvé des relations entre son monde violent, excessif, et le monde, le mien. Rothko, évidemment, il y a une puissance, je ne le croyais pas. Moi, je suis toujours très sceptique et un peu autodidacte dans mes croyances ou dans mes envies. Mais lorsque je suis allé au musée d'art moderne, là, pas loin d'ici, et une rétrospective qui commençait au début de Rothko, de la fin des années 40 jusqu'à la dernière toile, on est pris. Et malgré soi, et c'est là la force, je trouve, de cette peinture, un peu comme le premier mi bémol de Laure Durin, on est pris tout de suite, on ne sait pas pourquoi. Et ça, j'aime beaucoup qu'une œuvre puisse être un peu insidieuse et qu'elle vous agresse comme ça à ce point et qu'elle vous amène ailleurs.
Une peinture ne vous a jamais inspiré une œuvre ou une sculpture?
On pourrait dire que Scordatura a été plus ou moins inspiré par Max Beckmann, que j'avais en fond d'écran sur mon ordinateur. Et le fond d'écran, c'était la synagogue de Francfort.
Oui.
Et si on regarde bien ce tableau, les bâtiments sont soit des trapèzes, mais ce n'est pas du tout ordonné selon la verticale. Il y a même beaucoup de triangles. Et puis des éléments comme les réverbères, qui sont dans d'autres sens. Je les appelle ces éléments, des éléments qui perturbent. Et puis des lignes, les lignes télégraphiques, mais il y a d'autres lignes. Et trois personnages principaux qui sont dissimulés comme ça. Et comme je l'avais devant moi, mais je travaillais déjà sur Scordatura, j'ai imaginé aussi de travailler sur des mesures bancales pour le premier mouvement, avec des basses de 13, des 21, des choses qui animent aussi, et des choses qui restent en fond. Mais est-ce que ce n'est pas la synagogue de Francfort qui m'a inspiré? Mais c'est peut-être la concomitance.
Oui, et la composition de la toile. On a évoqué le compagnonnage avec Pascal Conté, avec Noémie Schindler évidemment.
Oui.
Et puis, vous avez posé un premier jalon sur le compagnonnage avec Philippe Nahon.
Philippe Nahon. J'ai retravaillé la messe après la création à Musica pour un projet avec des chœurs amateurs et Ars Nova. Et on partait comme ça avec Philippe et ça a été que des moments merveilleux. Il a fait l'agité du vocal, mais je pouvais toujours rectifier au dernier moment. C'est un chef tout terrain. Et surtout qui donne envie de jouer aux autres. Et les mêmes musiciens qu'on trouve, par exemple, dans tel ensemble, on retrouve après ailleurs, ils ne jouent pas pareil. Donc le chef a vraiment un impact énorme sur le musicien. C'est un compagnon, en fait. Et d'ailleurs, l'ensemble Ars Nova, c'est un compagnonnage. On est là pour monter quelque chose et on le monte tous ensemble. On n'est pas là pour jouer l'autocrate contre des vassaux. Il n'a jamais été comme ça.
Vous avez partagé aussi ce compagnonnage avec plusieurs ensembles, par exemple Deux-E-Deux-M, évidemment.
Deux-E-Deux-M, oui, avec Paul Méfano. J'étais longtemps président. Mais c'est un autre type d'ensemble, Deux-E-Deux-M. Deux-E-Deux-M, c'est un ensemble lié à la prospection, lié à la découverte beaucoup de la jeune musique. Et on essaye de toujours continuer dans cette direction. Le répertoire est plus exigeant, je dirais, par rapport aux qualités prospectives d'une œuvre. Tout dépend bien sûr de ce qu'on entend par prospectif. Mmh. Parce que c'est tout le concept de la modernité. Maintenant, on lit beaucoup une œuvre en fonction de ce qu'elle peut apporter aux générations futures, mais s'il y en aura, en fonction de sa modernité. Et moi, ce qui m'intéresse davantage, c'est plutôt en fonction de sa singularité. Thank you. trouve que chez Brahms, il y a autant Schubert, Schumann, Beethoven qui existent. Pourtant, Brahms est Brahms. Il existe par sa musique, par sa façon d'imprimer un son, une manière de faire vivre une phrase. Et c'est ce qui m'intéresse moi le plus. Donc je peux être autant touché par la singularité d'un Faya, d'un Prokofiev, même d'un Shostakovich que j'ai souvent boudé, que d'un Zimmermann, que d'un Morton Feldman. Et je déteste ces a priori qui sont fascistes de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de penser la musique. Et je trouve que Boulez et ses émules ont été une sorte de Zinoviev quoi, par appliquer à la révolution russe. Il n'y a qu'une façon de penser la musique, toutes les autres sont inutiles. Dans le jazz, il n'y a pas de rythme, la mélodie accompagnée sur et pas surannée, ce qui la fustige. Mais même dans les derniers entretiens qu'il a accordés avec Archambault, il a besoin encore de dire du mal du jazz, de Fauré, le pauvre Fauré, qu'est-ce qu'il a fait d'Eric Satie. Je trouve qu'il a porté énormément Eric Satie. Et moi, je trouve que dans Fable of Phoebus de Mingus ou dans Pedal Point Blues, il y a plus d'invention que d'improvisation pour Mallarmé. Ça a été désastreux et je l'ai senti vraiment comme une chape de plomb pendant de longues années. Ce dictat. Alors bien sûr, il a fait des grandes réalisations, mais c'est normal. En tant que dictateur, on a les moyens.
Ça a été difficile pour vous ?
Oui, parce qu'on était longtemps méprisé et aussi mis à l'écart. Mais je l'ai exprimé, ce que je vous dis là, je l'ai exprimé déjà très tôt, et y compris pendant mon premier concert en 79 au musée de l'art moderne sous l'égide d'Harry Albrecht. J'avais mis une phrase de Boulez et une autre phrase qui répondait sur cette notion d'autodidacte par volonté et par hasard. Je la retournais, en fait, cette phrase-là. Et Harry Albrecht a viré le truc de... Il m'a censuré, en fait. Parce que je ne comprenais peut-être pas ce dirigisme. Moi qui étais amoureux de Coltrane, Mingus et de Ligeti, et aussi de beaucoup de compositeurs de l'Est, qu'on méprisait un petit peu, puisque c'était des arriérés derrière le rideau de fer, mais des musiciens comme Goreski, comme Aurel Strouet, évidemment, Lutosavski, et évidemment Xenakis.
France Musique, les grands entretiens de Bernard Cavana.
En marge et parallèlement, Bernard Cavana, à vos compositions, à vos œuvres de compositeur, il y a les arrangements. Vous avez évoqué ces arrangements de musique de Schubert, mais il y a aussi des arrangements de Piazzolla, par exemple.
Ah oui, ça c'est...
Vous aimez le tango?
En fait, à Gennevilliers, on a créé la première classe en Europe de bandoneon. Mmh. Et donc, du coup, des classes de tango avec Mussolini et Strossio, César Strossio, du quartet Cédrone.
Oui.
Et donc, sont nés des ensembles. La plupart des ensembles de tango en France ont passé quelque temps chez nous. Et puis, il y a eu plusieurs générations de bandoneonistes. Et là, j'ai travaillé avec une... superbe bandoneoniste, Louise Jalu, pour un premier projet autour de vieux tango d'Enrique Delfino, parce que j'aimais bien arranger, mais aussi connaître cet instrument de l'intérieur, qui est très difficile. C'est un instrument diatonique pour tirer, pousser. Il y a un ordre anarchique dans les boutons. Et là, elle m'a demandé, pour un spectacle qu'elle donne à la Philharmonie, bientôt, le 10 janvier, travailler sur Piazzolla. Et moi, je n'aimais pas trop ce compositeur, parce que je le trouvais trop sirupeux, faisant appel à des codes néo-baroques pénibles, un peu comme chez Ennio Morricone, ou pire encore chez Saint-Preux, un concerto pour une voix. Mais lorsqu'on écoute Piazzolla lui-même, ça marche, parce que c'est un extraordinaire musicien, un extraordinaire bandoneoniste. Donc l'idée, c'était essayer de travailler avec elle sur... un tango de Piazzolla qui serait un standard de Piazzolla et de l'amener ailleurs. Par exemple, on a fait ça avec Adios Nonino, qui est pourtant, dans la partition, un balancement tonique dominante. Et là, on l'a mis dans une modalité très très large, en la reprochant avec la sonnerie de fermeture des portes du métro. Voilà, cette dissonance, hein, do, mi, mi un peu plus haut. Et on l'a reproché avec la dissonance en la mineure dans Piazzolla. Et on a eu comme complice Gustavo Bettelmann, qui est un très grand pianiste de tango, mais un très grand pianiste tout court, compositeur lui-même, et qui a travaillé avec Piazzolla dans les années 70. Il a fait l'Olympia, la grande salle en Europe, et on l'a eu comme partenaire, et ça a été formidable, parce que c'est un puits de culture. Bettelmann, c'est une personne admirable, qui connaît toutes les musiques de Lachenmann, Schrecker, on peut lui parler d'eux, il connaît tout. Et de l'avoir, et surtout de l'avoir comme passionné sur le projet de Louise, j'ai trouvé ça magnifique. Et je ne peux pas être présomptueux vis-à-vis de ce projet, mais elle amène quand même une autre couleur à ce monde de Piazzolla.
Fête foraine, elle apparaît dans quelques musiques,
oui.
Des échos de fête foraine.
Oui, toujours, c'est aussi un mélange de sons, de musique, avec des intensités différentes. Mais souvent, ce que je garde en l'esprit, c'est un peu les fêtes foraines des années 30 ou 40, où souvent une personne est seule, triste, ou elle a peut-être commis un drame, un crime. Et les gens s'amusent à côté, on y allait fermement. C'est la basse-cour humaine, finalement. On crie, on déjoue, et l'autre à son cheminement personnel et dramatique en général, et triste. Ouais, c'est souvent cette notion de fête que j'expose dans mes pièces.
Et toujours ce déchirement entre l'individu isolé et le collectif, le groupe.
Ouais. Si je prends une autre image, dans la messe, Laurence, elle peut, lorsqu'elle est sur son trottoir, elle voit l'animation de la ville. Tous les gens, leurs relations, leurs richesses, leur opulence, même ceux qui sont moins opulents le sont davantage qu'elle. Et elle est perdue. En fait, ça ne se croise pas avec eux. On vit parallèle avec l'être. Pareil, dans la vie, je pense qu'on vit toujours parallèle à l'autre et qu'on meurt finalement toujours tout seul. Et l'idéal, ça serait évidemment qu'on puisse accompagner le plus loin possible la mort de l'autre lorsqu'on est dans ces situations-là. Mais il y a cette solitude qui est implacable, qu'on ne se croise pas, y compris dans le couple où les relations pourraient être les plus fortes, les plus croisées. À un moment donné, il y a un champ où ça s'arrête, on est toujours un peu parallèle à l'autre. Et ça s'exprime un peu dans ce que je fais.
Mais il y a un petit côté aussi, allez, parlons plus de joie, il y a un petit côté Nino Rota, de temps
oui,
en temps.
Moi j'aime beaucoup.
Ça c'est l'Italie peut-être
L'Italie, puis surtout les films de Fellini. La Marcorde, par exemple,
oui.
Que c'était pour moi un sommet. C'était un des rares films comme ça, politique un peu de Fellini. La musique de Nino Rota, là-dedans. Ça va jusqu'à Casanova. J'ai toujours adoré ce musicien. Parce qu'on parlait de toi, Piazzolla, Ennio Morricone, mais finalement, lui, il n'est jamais tombé dans ce sirupeux. Il y a une authenticité qui est assez proche, d'ailleurs, de celle de Kurt Weill, je pense que Nino Rota est très proche de cette parenté. On peut retrouver, ou même des fois chez Rossini, l'ouverture de la messe de Rossini, par exemple. Il y a ces couleurs-là. Et j'aime bien ce legs populaire. Il y a une sincérité, il y a une gouaille, et puis aussi dérisoire. J'adore dans les orchestrations de Nino Rota la façon dont il va mettre, par exemple, une clarinette, une trompette et une grosse caisse. Et ça va suffire. Puis un petit violoneux qui essaye de faire quelques accords pseudo-guitare sur son instrument. J'aime bien ce mariage de sons. Mahler, d'ailleurs, ne l'a pas oublié, hein, souvent dans ses symphonies, ce côté un petit peu orchestre populaire, sans prétention.
Bernard Cavanagh, Vous éditez vous-même votre musique.
Oui.
Les éditions s'appellent les éditions de l'Agité. Alors,
oui.
On voit la référence à Céline, l'Agité du bocal. C'est
oui,
pas que ça,
c'est
peut-être.
Ça. Mais ce que j'aime bien dans cette édition, donc de l'Agité, parce que je m'agite toujours encore, j'ai l'impression d'être dans un lac, au milieu d'un lac, et puis que je fais des mouvements, et puis qu'un jour, forcément, ça, on va s'engloutir, un peu comme la coccinelle que dit la Reine Manne à propos de sa pièce, un mouvement, coccinelle sur le dos, qui agite toujours ses pattes, mais en vain, de toute façon. Bref, je m'agite toujours pour l'instant, et je propose, en fait, sur ce site, éditionsdagité.net, toutes les partitions en téléchargement libre, mais j'avais un autre site qui s'appelait c'est bernardcavana.com, une chose comme ça, qui était plus drôle, parce qu'on ouvrait sur le site, c'était que des poubelles.
Et pourquoi l'image de la poubelle ? Parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter dans l'œuvre de Bernard Cavana.
Non, mais Céline disait, la postérité, c'est vouloir entamer un dialogue avec les asticots. Parce que moi, j'ai envie, c'est de pouvoir établir des relations avec mes contemporains, le public, de gravir, bien sûr, deux ou trois générations. Mais je ne veux pas prétendre à la postérité d'Echilios ou d'Echille, de Ripide. Il faut accepter qu'on disparaisse et qu'on soit anonyme parmi les milliards d'individus. On a eu presque 8 milliards. Mais ce qui est beau, c'est justement les échanges qu'on a établis. Voilà, et ça partira avec la mémoire, mais il ne faut pas avoir d'autre ambition que celle-ci. C'est d'ailleurs incroyable comment ça se passe dans un corps qui passe de la vie à la mort, comme eux, ils appelaient ça l'âme. Les croyants, un truc qui s'échappe, mais effectivement, il y a quelque chose qui disparaît, qui est étonnant, qui est très, très, très étonnant. Et c'est cette part qui échappe qu'il faut garder en mémoire. Mais c'est la trace, en fait, d'un môme qui jette une pierre plate dans un lac, et ça va faire des ondées. Peut-être l'onde va un jour gagner l'autre rivage, mais en général, ça s'arrête au milieu.
On va clore cet échange sur cette réflexion philosophique de la postérité.
Vous savez, je ne suis pas quelqu'un d'instruit, de cultivé, mais en tout cas, j'ai un plaisir inouï de parler avec vous, parce que vous avez réussi à faire parler le taiseux.
Chercher encore des mots qui disent quelque chose. Là où l'on cherche les gens qui ne disent plus rien. Mais trouver encore des mots qui savent dire quelque chose, là où l'on trouve des gens qui ne peuvent plus rien dire.
Le violon de Marianne Piketty, l'accordéon de Pascal Conté pour servir d'écrin au poème de Erich Fried, Les Disparus, mis en musique par Bernard Cavana. Bernard Cavana dit le taiseux. C'est la fin de ces grands entretiens réalisés par Christine Amado avec Claude Niort, Sébastien Royer et Flora Sternadel. Vous pouvez retrouver la programmation musicale de ces émissions, mais aussi podcaster et réécouter les 5 volets de ce portrait sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.